Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 15h.
Sire, Madame, Altesse Royale, Mesdames, Messieurs.
Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Mais d'abord, c'est un style oral, un style parlé, mais très calculé, avec un rythme secret. Une jubilation du mot rime, une joie de la syllabe, fait une espèce de dégustation charmante des vocables.
Bonjour à tous. Merci d'écouter cette première édition de D.T. Fabula Narratur, votre nouveau rendez-vous de collage littéraire sur Radio Campus Lille, 106.6. D.T. Fabula Narratur est une locution latine qui signifie « Ceci est ton histoire, cette histoire est la tienne » ou encore « Tu es le propos de cette histoire ». Et en effet, nous aimerions que notre travail éditorial puisse vous parler, que les textes que nous pêchons au fin fond de notre mémoire ou de nos bibliothèques résonnent chez vous et qu'ils vous emportent dans les traces de leurs récits. Nous avons imaginé comme exercice principal de cette émission un travail de collage, d'accolage de textes, reliés par des ambiances ou des bruitages, pour traiter librement de thèmes choisis par avance. La seconde partie de l'émission sera quant à elle consacrée à des manigances littéraires de notre part, allant de la chronique aléatoire à l'anecdote facétieuse. Pour cette première émission, nous nous penchons sur un thème, mais peut-être d'abord sur un caractère typographique, les guillemets. Qu'il soit à la française ou à l'anglaise, c'est bien entre des guillemets que nous abordons le thème du sauvage. Guillemets, car nous pourrons voir, au cours des trois prochaines semaines, que loin d'être une essence, la nature de celui que l'on nomme le sauvage ne va pas de soi. Nous entendons au contraire combien la ou la conception du sauvage sont produites par le regard du civilisé, ce dernier se mettant d'ailleurs rarement entre guillemets. Ainsi peut-être, les modernes auraient leur sauvage comme les Grecs avaient leur barbare. Pour donner à entendre ces valorisations, ces jugements de valeur, la défense du sauvage ou sa condamnation, nous mettrons plusieurs textes en regard. Vous allez le constater, nous ne donnerons pas à l'antenne les références de ces œuvres. Vous pourrez cependant tenter de les deviner ou les retrouver sur notre journal en ligne fabulanarraturblog.wordpress.com. La raison de cette omission volontaire est qu'il nous semble utile de se passer des références pour que les textes soient mieux perméables les uns aux autres. Cette indistinction donnera peut-être l'idée qu'au-delà des auteurs, il existe peut-être des proximités de langage et des structures qui traversent ces thèmes littéraires. C'est précisément ce que nous aimerions faire retentir. C'est donc aussi un projet expérimental que celui de cette émission, chercher des potentialités littéraires par cette pratique du collage. Nous sommes aujourd'hui avec Nicolas Bresse, Thibaut Gamard, Victor Daubin et moi-même Justin Frépon.
Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m'y résoudre. 15 ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil et, pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre. Chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m'en ont empêché. Et quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d'événements insignifiants ? L'aventure n'a pas de place dans la profession d'ethnographe. Elle en est seulement une servitude. Elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin. Des heures oisives pendant que l'informateur se dérobe, de la faim, de la fatigue, parfois de la maladie, et toujours de ces 1000 corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service militaire. Qu'il faille tant d'efforts et de vaines dépenses pour atteindre l'objet de nos études ne confère aucun prix à ce qu'il faudrait plutôt considérer comme l'aspect négatif de notre métier. Les vérités que nous allons chercher si loin n'ont de valeur que dépouillées de cette gange. On peut, certes, consacrer 6 mois de voyage, de privation et d'écœurante lassitude à la collecte, qui prendra quelques jours, parfois quelques heures, d'un mythe inédit, d'une règle de mariage nouvelle, d'une liste complète de noms claniques. Mais cette scorie de la mémoire, à 5h30 du matin, nous entrions en rade de récif, tandis que piaillaient les mouettes et qu'une flottille de marchands de fruits exotiques se pressait le long de la coque. Un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la plume pour le fixer ?
Appelez-moi Ishmael. Voici quelques années, peu importe combien, le porte-monnaie vide ou presque, rien ne me retenant à terre, je songeais à naviguer un peu et à voir l'étendue liquide du globe. C'est une méthode à moi pour secouer la mélancolie et rajeunir le sang. Quand je sens s'abaisser le coin de mes lèvres, quand s'installe en mon âme le crachin d'un humide novembre, quand je me surprends à faire halte devant l'échoppe du fabricant de cercueils et à emboîter le pas à tout enterrement que je croise, et plus particulièrement lorsque mon hypocondrie me tient si fortement que je dois faire appel à tout mon sens moral pour me retenir de me ruer délibérément dans la rue afin d'arracher systématiquement à tout un chacun son chapeau, alors j'estime qu'il est grand temps pour moi de prendre la mer. Cela me tient lieu de balles et de pistolets. Caton se lance contre son épée avec un panache philosophique. Moi, je m'embarque tranquillement. Il n'y a là rien de surprenant. S'ils en étaient conscients, presque tous les hommes ont, une fois ou l'autre, nourri à leur manière envers l'océan des sentiments pareils aux miens. Enfin, l'ancre fut levée, les voiles hissées, et nous glissâmes sur l'eau. À bord du Pequod régnait un profond silence. Pas une âme ne bougeait. Nous dirigeant vers le gaillard d'avant, nous trouvâmes le panneau d'écoutillon ouvert. Voyant une lumière, nous descendîmes et ne découvrîmes qu'un vieux gréeur, enveloppé dans une vareuse d'ordonnance en lambeaux. Couché de tout son long sur deux coffres, à plat ventre, le visage enfoui entre ses bras croisés, il dormait du plus profond sommeil. Quickeg s'installa alors juste derrière la tête du dormeur et alluma son tomahawk pipe. Je m'assis au pied. Nous nous passions la pipe par-dessus le dormeur. Tout en fumant, répondant à sa manière incohérente aux questions que je lui avais posées, Quickeg me laissa entendre que dans son pays, en l'absence de causeuses et de sofas d'aucune espèce, les rois, les chefs, et tous les grands en général avaient coutume d'engraisser quelques individus des basses classes en guise de divan, et de meubler ainsi une maison très confortablement. Vous n'aviez qu'à acheter 8 ou 10 paresseux et à les disposer dans les trumeaux et les alcôves. D'autre part, ils présentaient de gros avantages lors d'une promenade. Ils étaient de beaucoup supérieurs à ces chaises de jardin qu'on peut replier afin qu'elles servent de canne, car lorsque l'occasion s'en présente, le chef peut transformer son escorte en canapé, s'il désire s'asseoir sous un arbre, croissant peut-être dans un sol humide ou marécageux. Tout en racontant son histoire, chaque fois que je lui repassais la pipe, Quickeg en brandissait le côté hache sur la tête du dormeur. Je le regardais avec beaucoup d'intérêt. Tout sauvage qu'il était, et si hideusement défiguré, à mon goût du moins, l'expression de son visage était loin d'être déplaisante. Une âme ne peut se dissimuler. Sous ces tatouages d'un autre monde, je croyais découvrir un cœur simple et honnête. Et dans ses larges yeux profonds, ardents, sombres et hardis, un esprit propre à défier 1000 démons. D'autre part, le païen avait une attitude altière que sa singularité n'entamait guère. Il avait l'air d'un homme qui ne s'était jamais montré obséquieux et qui n'avait rien dû à personne. Que son front parut plus franc, plus lumineux et plus grand du fait qu'il avait la tête rasée, je ne me risquerais pas à l'affirmer. Mais il est certain que le moule de son crâne était phrénologiquement des meilleurs. Si ridicule que cela paraisse, il me rappelait le général Washington tel que le représentent les bustes populaires. au-dessus d'arcades sourcilières saillantes, pareil à deux promontoires boisés de rue, il avait cette même dépression longue et régulière. Quick Egg était le sosie de George Washington, en plus cannibale. Il était natif de Cocovoco, une île très lointaine dans l'ouest et dans le sud. Elle ne figure sur aucune carte. C'est le propre des endroits vrais. Lorsqu'un sauvage frais et clos court librement dans ses forêts natales, vêtu d'un pagne de feuilles, suivi par de grignotantes chèvres, il n'est rien de plus qu'un adolescent. Toutefois, dans l'âme ambitieuse de Quick Egg, couvait alors un fervent désir de voir de la chrétienté autre chose qu'un occasionnel échantillon fourni par les baleiniers. Son père était un grand chef, un roi. Son oncle, un grand prêtre. Et il se vantait d'avoir du côté maternel des tantes qui étaient les épouses d'invincibles guerriers. Il avait du bon sang dans les veines. Du sang bleu. Je le crains, tristement corrompu par le penchant cannibalesque dans lequel son ignorante jeunesse avait été entretenue. Un navire en provenance de Sagarbor relâcha dans la baie paternelle. Et Quick Egg demanda à s'y embarquer pour les terres chrétiennes. Mais l'équipage du navire étant complet, sa requête fut repoussée, et toute l'influence de son royal père resta inefficace. Mais Quick Egg s'était fait un serment. Seul dans son canoë, il pagaya jusqu'à un détroit, qu'il semblait impossible au navire d'éviter après avoir quitté l'île. Il était bordé d'un côté par un récif de corail, de l'autre par une bande de terre basse, couverte de palétuviers émergeant de l'eau. Dissimulant son canoë parmi ses buissons, la proue pointant vers la mer, il s'assit à l'arrière, tenant bas sa pagaie. Et lorsque le navire passa à portée, il jaillit comme une flèche, gagna ses flancs, d'un coup de pied, fit chavirer et sombrer son embarcation, grimpa aux chaînes, et se jetant de tout son long sur le pont, il s'agrippa à une boucle d'amarrage et jura de ne pas lâcher prise, dût-on le hacher menu. En vain, le capitaine le menaça-t-il de le jeter par-dessus bord. En vain, suspendit-on un sabre d'abordage au-dessus de ses poignets nus. Quick Egg était fils de roi, et Quick Egg était inébranlable. Frappé par cette intrépidité et par ce désir farouche de voir la chrétienté, le capitaine s'adoucit enfin et lui dit de se considérer comme chez lui à bord. Toutefois, ce superbe jeune sauvage, ce prince de Galles des mers, ne vit jamais la cabine du capitaine. Il fut inscrit comme matelot, et on fit de lui un baleinier. Mais tel le tsar Pierre, qui était satisfait de travailler sur n'importe quel chantier naval des villes étrangères, Quick Egg ne reculait devant aucun travail prétendu ignoble. S'il pouvait acquérir l'heureux pouvoir de rapporter quelques lumières à ses ignorants compatriotes, car, me dit-il, il était poussé par un désir d'apprendre des chrétiens les arts qui auraient ajouté au bonheur des siens, et qui plus est, les auraient rendus meilleurs. Mais, hélas, les habitudes des baleiniers eurent au fait de le convaincre que les chrétiens pouvaient être à la fois malheureux et méchants, infiniment plus que tous les païens de son père. Arrivé enfin dans le vieux Sagarbor, il vit à quoi ils dépensaient leur paix là aussi. Et le pauvre Quick Egg considéra la cause comme perdue. Il pensa, c'est un monde pourri sous tous les méridiens, et je mourrai païen.
Com todo o cuidado nicht gesehen, canto con toda cuidado. No es un parto niño, trancador de soldata. No es un parto niño, trancador de soldata. Yo bati en navegare, y estrago sangue das veias. Yo bati en navegare, y estrago sangue das veias. Oh, fialão arcoada, riqueza baleia. Oh, fialão arcoada, oh, riqueza baleia. Quem não cantar considera a vida daquele triste. Quem não conta considera a uma vida daquele triste. Foi trancada para as avessas, prometido pelo Cristo. Oh, foi trancada para as avessas, prometido pelo Cristo. E estrago o sangue das veias em virar aquela cena. E estrago o sangue das veias em virar aquela cena.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Lille 106.6, suite de notre programme.
Peu après, un canot vint se ranger à nos côtés. Il s'y trouvait 8 ou 10 indigènes, des jeunes gens à l'air avenant et éveillé, et qui n'étaient que gestes et exclamations. Les plumes rouges qui étaient piquées dans leurs bandeaux étaient sans cesse agitées. Avec eux vint aussi un étranger, un renégat du christianisme et de l'humanité. Un homme blanc, avec le pagne des mers du sud et des tatouages sur le visage. Une large bande bleue coupait sa face d'une oreille à l'autre, et sur son front était dessiné un requin bleu en forme de goupille, qui n'était qu'aileron de la tête à la queue. Quelques-uns considérèrent cet homme avec un sentiment voisin de l'horreur qui ne s'affaiblit nullement lorsqu'ils apprirent qu'il s'était volontairement prêté à cet embellissement de son extérieur. Quelle tare n'était-ce pas là ? Pire en cela que celle de Caïn. Celle-là était peut-être une ride ou une tache de rousseur qu'un de nos cosmétiques modernes aurait effacée. Le requin bleu était une marque indélébile que toutes les eaux d'Abana et de Fargar, les rivières de Damas, n'auraient pu laver. C'était un Anglais, appelé Lem Hardy. Comme son tatouage faisait grande impression, Hardy avait beaucoup à raconter sur la manière dont cet art était pratiqué dans son pays d'adoption. Le renégat avait vécu si longtemps dans l'île que ses coutumes lui étaient tout à fait familières, et je regrette beaucoup que, par suite de la brièveté de notre séjour, il ne lui fût pas possible de me raconter plus qu'il ne le fit. Dans tout ce groupe d'îles, la réputation des tatoueurs d'Ivarou n'était pas peu de chose. Ils avaient porté leur art au plus haut degré de la perfection, et leur profession était considérée comme fort honorable. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que, comme des tailleurs chics, ils fissent payer leurs services fort cher. Si cher même, que personne, sinon les gens de la haute société, ne pouvait se permettre de les employer. Cela était tellement vrai que l'élégance du tatouage était, dans la plupart des cas, un signe de haute naissance et d'opulence. Ceux qui bénéficiaient d'une vaste clientèle vivaient dans de grandes maisons, divisés par des écrans de tapas en de nombreux petits appartements où les patients étaient traités en privé. cette disposition des lieux avait principalement pour cause une prescription singulière du tabou qui enjoignait la plus stricte ségrégation à tous, de hautes et de basses conditions, pendant le temps où ils étaient entre les mains d'un tatoueur. Pendant cette période, la moindre relation avec autrui est interdite, et la petite quantité de nourriture autorisée est glissée sous le rideau par une main invisible. La restriction touchant la nourriture a pour but de réduire la quantité de sang, de manière à diminuer l'inflammation consécutive aux piqûres de la peau. Toujours est-il que celle-ci se produit très vite, et qu'il faut quelque temps pour la guérir. Aussi, cette période de réclusion dure-t-elle généralement plusieurs jours, voire quelques semaines. Lorsque toute trace de contusion a disparu, le patient peut sortir, mais ce n'est que pour revenir ensuite. Car la douleur que cause le tatouage est si vive qu'on ne peut opérer que sur une petite surface à la fois. Et comme tout le corps doit être plus ou moins embelli par une méthode si lente, les studios dont il a été question ci-dessus sont constamment remplis. En fait, et en raison d'une vanité qu'on ne rencontre nulle part ailleurs, bien des gens passent ici une partie appréciable de leur jour à poser pour un artiste. La période de l'adolescence est considérée comme celle convenant le mieux pour commencer le travail. Après s'être mis en quête d'un tatoueur éminent, les amis du jeune homme l'emmènent à sa maison pour que l'opérateur trace une ébauche du plan général. Il convient que le professeur ait l'œil artiste, car il faut qu'un vêtement que l'on porte pour la vie soit bien taillé. Quelques tatoueurs, avides de perfection, engagent à gros prix un ou deux hommes de l'espèce la plus commune, des gaillards corrompus qui ne se soucient pas le moins du monde des apparences, sur lesquels ils expérimentent tout d'abord leur brevet et leur dextérité en général. Lorsque leurs dos ont été impitoyablement barbouillés et qu'il ne reste plus de canevas à essayer, on les renvoie, et pour toujours. Après cela, ils seront en butte au mépris de leurs compatriotes. Pauvres hères qui sont ainsi martyrisés pour servir la cause des beaux-arts.
Cette thématique du sauvage dans la littérature nous a valu l'attention d'un grand monsieur des lettres. expert en épistémologie planétaire, fondateur de l'association Érudits sans frontières, auteur du sulfureux traité pour l'alphabétisation des Béotiens et du recueil vers la béatification poétique, j'ai bien entendu nommé le professeur Herbert von Olibrius. Cher professeur, je crois savoir que vous voulez profiter de cette émission pour rappeler à notre mémoire un écrivain qui s'est concentré sur l'étude de celui que l'on appelait au XVIIIe et XIXe siècle le sauvage.
Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, mon jeune ami. Laissez-moi d'abord vous féliciter pour votre émission. Vous faites la part belle aux œuvres de ces géniaux scribouillards, et ce, à une époque où l'on lit si peu, n'est-ce pas ? Pourtant, quelle joie d'entendre revivre des textes d'aussi éminents collègues. Je vois qu'en plus vous arborez comme moi une moustache en guidon. Eh bien, jeune ami, je vous prédis un brillant avenir, une voie royale, comme dirait cette vieille branche de Malraux. Mais trêve de Salam Alek, je suis en effet ici pour vous parler d'un auteur très spécial. Bien sûr, quand il s'agit de la représentation du sauvage dans la littérature, nous avons tous été bercés par le voyage en terre du Brésil de Jean de Léry, ce petit artisan cordonnier, puis par le voyage autour du monde de ce vieux loup de mer de Bougainville. Et que dire de plus au sujet du mythe du vent sauvage, après les versions des Diderot, Rousseau et autres Montaigne, n'est-ce pas ? Eh bien, crénom, je vais vous le dire, il en est un, et non des moindres, que l'on oublie toujours. Alors laissez-moi vous parler de Guy de l'Arche. Les premières traces que l'on trouve de lui sont dans les registres de la campagne d'Égypte de Napoléon. Le 17 mai 1798, c'est-à-dire le 30 floréal de l'an 4 pour le calendrier de l'époque, pas moins de 50 000 hommes embarquent dans 400 navires à Toulon et Marseille, avec la ferme intention de mettre des bâtons dans les roues de ce foutu empire britannique en leur bloquant la route des Indes au niveau de l'Égypte. Guy de l'Arche était de l'expédition. Appartenant à l'infanterie de ligne, c'était un fusillé connu dans tout le régiment pour son maniement approximatif des armes. Pour l'anecdote, quelques mois avant le départ du corps expéditionnaire, alors qu'il était de garde nocturne, il fit sauter l'arsenal de sa caserne toulonnaise en quittant son poste sans éteindre la bougie qu'il avait installée sur un baril de poudre noire. Il évoque cette mésaventure dans ses mémoires sous le terme, je cite, « d'une regrettable erreur de jugement ». Sa réputation de maladroit grandissant, il est écarté des champs de bataille et affecté à la protection de la délégation scientifique qui accompagnait les troupes. Le voilà donc catapulté garde du corps en guêtre et baïonnette pour égyptologues et historiens impériaux. À leur contact pendant 3 ans, il se familiarise avec de nombreux sites archéologiques et découvre les richesses de l'Égypte ancienne. Mais en 1801, c'est la défaite et le retour en France. Guy de l'Arche est définitivement renvoyé de l'armée après quelques nouvelles erreurs d'appréciation de sa part et se retrouve rapidement sans ressources. Il décide alors de rebondir et de repartir pour l'Égypte à bord d'un navire marchand. Fort des connaissances accumulées en observant les savants, il se lance avec un certain succès dans le pillage de tombes, une activité qui le met rapidement à l'abri de la pauvreté. N'étant dès lors plus poussé par la nécessité, ce maraudage archéologique se transforme en honnête intérêt scientifique, et c'est avec passion que Guy de l'Arche s'adonne à l'étude de la culture pharaonique jusqu'à ses 28 ans. C'est alors que survient un épisode des plus confus. Il affirme en effet dans ses carnets être tombé sous la coupe d'une malédiction en forçant la tombe d'un supposé prêtre d'Anubis, dieu des morts à tête de chien. S'ensuivent alors des épisodes de démence et de mégalomanie. Le pauvre homme se prenait tour à tour pour le comte de Buffon, le célèbre naturaliste, pour Jacques Cartier ou encore Vasco de Gama, s'appropriant leurs découvertes scientifiques et géographiques et rappelant à qui voulait l'entendre à quel point le Cap Horn était ardu à franchir. Mais, non content de la revendication de ses gloires passées, notre sympathique explorateur maudit, semblant reprendre ses esprits, se mit en tête d'inscrire son propre nom dans l'histoire. Un projet qui vraisemblablement échoua, mais c'est une parenthèse. Ainsi, grâce à ses coffres pleins d'or égyptiens, il équipa un navire et prit le large vers le Nouveau Monde. À présent tourné vers les études culturelles, Guy de l'Arche avait dans l'idée de refonder la pratique de l'anthropologie et de l'ethnologie. Ces dernières étaient à l'époque basées sur des interprétations théoriques, et donc lointaines, des récits de voyages des grands découvreurs. Le premier des ethnologues français véritablement de terrain était donc ce que l'on peut appeler un savant fou. Il explora de nombreuses îles du Pacifique, y séjournant pour chacune plusieurs années, aux grandes dames de son équipage. Dès qu'il tombait sur une nouvelle tribu, il ne la quittait plus. Il adoptait son mode de vie, son régime alimentaire et ses pratiques rituelles.
Tout d'abord, effrayés à la vue de cet homme blanc et roux courant nu dans la forêt comme un illuminé, les indigènes semblent pourtant l'accepter rapidement, le considérant probablement comme une source d'amusement perpétuel. Guy Delarche put donc se livrer corps et âme à son projet d'ethnologie immersive et ne regagner son navire que de temps à autre pour coucher le fruit de ses expériences sur le papier. Arrivé aux îles Fidji, que l'on appelait déjà les îles cannibales, on ne trouvait plus sur le bateau le moindre moussaillon partageant encore l'enthousiasme de l'autoproclamé professeur. L'équipage commençait à comprendre que le retour en France ne faisait pas partie des plans de leur employeur. Ce fut sans doute la mutinerie la plus calme de l'histoire. Guy Delarche fut débarqué sur une plage avec ses effets personnels, et le navire n'avait pas encore terminé de lever l'ancre que ce dernier, trop heureux de rencontrer enfin des anthropophages, s'était déjà déshabillé et galopait vers la jungle, armé de son plumier et d'un grand rouleau de parchemin. La consommation pendant des années de substances psychotropes lors des rituels tribaux avait achevé de lui troubler l'esprit, et ses derniers écrits tiennent plus de la poésie surréaliste que de l'ouvrage scientifique. Ceci aurait d'ailleurs été une source d'inspiration de Lautréamont pour la rédaction des Chants de Maldoror. On y apprend néanmoins que pour réussir son intégration au peuple des Fidji, et dans la logique de ce qu'il nomme lui-même l'ethnologie action, Guy Delarche se serait converti au régime cannibale. Il précise ainsi que la chair humaine a, je cite, « le parfum salé des travers de porc ». Mais cette nouvelle appétence cause malheureusement sa perte, car il contracte le courroux, une maladie liée à l'anthropophagie et qui entraîne à terme une sérieuse démence. Celle-ci venant s'ajouter au dérèglement psychologique causé par la malédiction égyptienne et la cure de cocktail chamanique, il n'en faut pas plus pour Guy Delarche pour se proclamer premier empereur des Fidji et tenter de soumettre toute la population de l'archipel. Il termine donc ses jours en méchoui de viande blanche, mais en laissant à la postérité une quantité d'écrits qui seront retrouvés quelques dizaines d'années plus tard par une expédition coloniale. Guy Delarche se révèle être un piètre ethnologue, tant ses analyses sont farfelues. Mais dans son délire, il fait malgré tout une formidable œuvre d'ethnographe, entendez par là la simple description des mœurs d'une société donnée. Ainsi, ses ouvrages se nomment « Introduction à une polygamie joyeuse », « Le chasseur-cueilleur halluciné » ou encore « Cent façons d'honorer son ennemi », ce dernier étant en fait un livre de recettes. Si l'excentricité de son œuvre lui vaut de ne pas toujours être pris au sérieux par la communauté scientifique, Darwin en personne considérera l'enthousiasme de son engagement comme une source d'inspiration.
Eh bien, merci beaucoup, professeur. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus. Et dans un instant, Shostakovich, la sonate pour violoncelle et piano, opus 40, le deuxième mouvement, c'est-à-dire l'Allegro. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 106.6 et tout de suite, une chronique que Thibaut va nous dire. Alors je vous présente la chronique que nous appelons la chronique aléatoire. Dans la chronique aléatoire, nous tirerons en fait au sort chaque semaine en direct un exercice, l'exercice auquel devra se soumettre l'un de nos animateurs. Et cet exercice consistera à rédiger donc un texte pour l'émission suivante à partir d'un genre et d'un adjectif qui ont été désignés au hasard. Donc on a une douzaine de genres, à peu près 15-16 adjectifs qualificatifs. Et ainsi, cette chronique peut être fictive, vraisemblable, véritable, fabuleuse, fantastique. Et cette semaine, comme vous allez le voir, c'est les matchs de la semaine version hypochondriaque et dépressif.
Chronique aléatoire. La semaine a été particulièrement dialectique. Tous ces derbies, ces affrontements, ces duels se sont résolus sans qu'aucun des participants n'en ressorte gagnant. Au football, tous les matchs se sont achevés sur un 0-0. Aucun des joueurs n'ayant eu le courage de faire le moindre geste, pas même pour s'asseoir pendant les 90 minutes. Aucun n'a souhaité répondre à nos questions. Seul l'arbitre a bien voulu répondre « bof » lorsque nous lui avons demandé ce qu'il pensait du match Nîmes-Bourg-en-Bresse, qui s'annonçait pourtant palpitant. Un mal étrange qui ne touche pas uniquement le football. Le boxeur Tyson Fury a également déclaré au Monde « Je ne m'entraîne plus, je suis dépressif, j'en ai assez de la vie ». Les différentes fédérations sportives y ont alors pertinemment vu la marque d'une malédiction. Accusées, les diseuses de bonne aventure se sont alors défendues. Les coqs non plus n'ont pas voulu se battre, les parieurs avaient pourtant répondu présent. Une cote de 12 contre 1 pour le grand favori. D'ordinaire, ça les galvanise. Nous faut préciser que les coqs n'avaient pas annoncé le lever du soleil ce jour-là. « Nous ne l'avions pas vu arriver », déclare-t-elle, micro éteint. Un comble. Il ne manquerait plus que le combat de coq soit interdit en Nord-Pas-de-Calais et le coupable serait tout désigné. Mais les matchs politiques non plus n'ont pas été épargnés. La grande manifestation dans le prolongement de la lutte contre la loi travail qui devait avoir lieu vendredi n'a pas eu lieu. Les cégétistes nous ont expliqué avoir ressenti de vives brûlures sur la rétine et des douleurs sur tout le corps. De leur côté, les CRS ont déclaré que tout allait bien jusqu'à ce qu'ils enfilent leur casque. Ils ont alors entendu et senti leur équipement martelé d'objets contondants. Les manifestations se passeront-elles chacun chez soi désormais ? La joute verbale parlementaire hebdomadaire est également tombée à l'eau. Tout a député lorsque le député maire de l'Indre-et-Loire, Frédéric Pistache, a annoncé son absence pour cause de grippe. Nous avons contacté le médecin personnel de M. Pistache, le docteur Filoche. Celui-ci n'a pas daigné répondre avant le 7e appel. Il nous a alors confié « Il n'y a jamais eu de grippe, mais cette fois-ci, cela ne semblait pas être de la comédie. » Il a alors raccroché. Nous avons dû le rappeler une bonne dizaine de fois pour qu'il nous réponde à nouveau. Il n'a prêté aucune attention à nos demandes d'explication sur ce refus de nous parler, sa voix ne semblait d'ailleurs pas avoir changé. Il a ensuite répondu calmement à nos autres questions. Le ministre s'est de nouveau plaint de douleur à différents endroits. Après examen, je n'ai rien pu trouver. Je ne pensais pas que sa douleur était feinte. J'ignore ce qui a pu causer cela, le stress, un effet psychosomatique de sa névrose hypochondriaque. Il a alors raccroché pour de bon. D'autant plus intrigué, nous avons contacté le Parlement. « Vous êtes aussi malade ?» nous assène-t-on à peine le combiné décroché. Nous nous présentons. Le secrétaire nous explique qu'alors qu'à 7h, mardi à 17h, la moitié des ministres avaient déclaré un arrêt maladie. Vous avez d'ailleurs pu vous rendre compte qu'il n'y a eu aucune retransmission de l'Assemblée ce mercredi. Nous ignorons si les équipes de télé étaient, elles, sur place. Nous avons appris vendredi qu'aucun des parlementaires n'avait repris le travail et qu'aucun d'entre eux n'avait pu justifier son absence. En faisant un petit état des lieux, il nous est apparu que les médias télévisés, les politiciens, les militants, les forces de l'ordre, les sportifs étaient tous paralysés. Ne voyant pas qui d'autre pourrait s'en charger, nous avons alors pris sur nous de mener l'enquête. C'est à ce moment précis que des amis d'une radio écologiste du sud de la France nous ont contactés. Ils avaient également pris conscience du phénomène, mais par des biais bien différents. Leur point de départ a été la constatation, qui va encore appuyer le désarroi de nos amis sportifs et la joie de nos amis des bêtes, que la dernière corrida prévue pour la grande feria de Pentecôte de Nîmes était encore reportée, cette fois-ci sans annoncer de date. Il nous faut rappeler que depuis le mois de mai, chaque nouvelle date proposée se voit annulée. Nous avons alors parcouru les archives des résultats sportifs, mais il semble bien que tout remonte à ce moment précis. Les Gardois, avec qui nous étions en contact fréquent, ont alors émis l'hypothèse selon laquelle la nature se rebellait enfin. Nous n'avons dans un premier temps prêté aucune attention à cette théorie, quand ce matin, nous avons appris qu'un groupe de golfeurs strasbourgeois, partant de la même idée, avait essayé de viser le cœur du cyclone Matthew, y voyant l'incarnation de cette révolte des dames nature. Toutefois, l'échec, pourtant prévisible, de leur entreprise, les a plongés dans une terrible catatonie. Nous avons alors essayé d'avertir nos amis écologistes sans réussir à la contacter. Nous sommes alors allés voir du côté des écolos. Ils étaient tous au courant et tweetaient activement tôt ce matin, puis cela s'est amoindri en fin de matinée jusqu'à ne plus avoir de nouvelles du tout vers midi. Ce flot de tweets avant 8h est peut-être ce qui ressemble le plus à un match de toute la semaine. Nous allons vous lire les meilleurs. Cécile Duflot a déclaré ce matin « Combien de temps cela doit-il durer pour que vous votiez pour moi ?» Yann Arthus Bertrand de reprendre « Même mes photos ne se développent pas. » François Bayrou « Et moi ?» Et le Sea Shepherd a conclu d'on ne sait où « On vous avait prévenu, hashtag on arrive. » Nous nous sommes alors demandé si le véritable match ne nous opposait pas, nous, au reste du monde malade et inactif. Après de longues heures à débattre de cela, et en nous rendant compte que la rédaction de cette rubrique n'avait pas avancé d'un pouce, un de nos collègues nous a prévenu de son absence à l'émission par texto. La peur nous a alors envahis. Était-il lui aussi tombé malade? Avait-il pris part à cette incroyable machination? Était-ce dirigé contre nous? Entre maladie, mégalomanie et paranoïa, nous étions piégés. Manifestement contaminés, nous avons alors pris notre courage à deux mains pour essayer de finir tant bien que mal cette rubrique.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus. Cette rue s'est donc terminée et nous allons maintenant procéder au tirage au sort comme annoncé de la rubrique de la semaine prochaine. Qui déjà sera celui qui vous vous souvenez ? Ce qu'on a décidé juste avant ?
Ce sera Arthur.
Ce sera Arthur. Alors qu'est-ce que Arthur va avoir à faire ? Alors nous avons... Est-ce que tu peux me dire le numéro ?
5.
Alors, 5, j'ai reportage.
Et 2.
Alors, un petit instant. Antique. Voilà, un reportage antique pour notre cher ami Arthur, qui, j'en suis convaincu, sera tout à fait intéressé par cet exercice.
Et à la hauteur.
Et à la hauteur, certainement. Je vous propose d'écouter tout de suite Frank Zappa sur Radio Campus 106.6 MHz. Thank you.
Nous allons maintenant démarrer la rubrique anecdote. Cette rubrique va consister à aller piocher à droite à gauche dans la littérature, qu'elle soit antique ou moderne, de petits morceaux de texte qui ne peuvent pas constituer en soi le programme d'une émission complète, mais simplement qui méritent d'être lus. Donc aujourd'hui, ce sera les Nuits attiques de Aulu Gell, au livre 9, chapitre 4, des traditions merveilleuses sur quelques nations barbares, enchantements funestes et déplorables, femmes changées subitement en hommes.
Revenant de Grèce en Italie, je débarquais à Brindes. Au sortir du vaisseau, je me promenais sur ce port fameux qu'Ennius a appelé Praetes. Assuré, en donnant à ce mot une acception fort peu usitée mais très convenable, lorsque j'aperçus un étalage de livres mis en vente. C'était une collection de livres grecs, remplis de merveilles, de fables et de récits inouïs, incroyables, dont les auteurs étaient anciens et d'une autorité incontestable. Aristée de Proconèse, Isigone de Nicée, Ctésias, Onésicrite, Polystéphane et Gésias. Tous ces livres, abandonnés depuis longtemps, étaient couverts de poussière et avaient la plus triste apparence. Toutefois, je m'approchais, je demandais le prix, et séduit par un bon marché inattendu et tout à fait étonnant, j'achetais presque rien un grand nombre d'ouvrages. Je passais les deux nuits suivantes à les parcourir. En faisant cette lecture, j'ai noté quelques traits merveilleux que l'on chercherait vainement, je crois, dans d'autres écrivains. J'ai jugé convenable de leur donner place dans cet ouvrage pour les faire connaître à mes lecteurs, afin qu'ils ne soient pas tout à fait étrangers aux récits de ce genre. Voici quelques extraits de ces livres. Les Scythes, qui vivent aux extrémités septentrionales du monde, mangent de la chair humaine, ce qui leur a fait donner le nom d'anthropophage. Dans les mêmes régions se trouvent des hommes qui n'ont qu'un œil au milieu du front, et qu'on appelle Arimap. C'est ainsi que les poètes représentent les cyclopes. Il y a encore dans cette même contrée une race d'hommes qui marchent avec une grande vitesse, mais au lieu d'avoir pieds tournés en avant comme les autres hommes, ils les ont tournés en arrière. Enfin, à l'extrémité du monde est un pays appelé Albanie, où naissent des hommes dont la chevelure blanchit dès l'enfance et qui voient mieux la nuit que le jour. On donne encore pour certain que les Sarmates, qui habitent au-delà du Béristène, ne prennent leur nourriture que deux jours l'un et ne mangent rien dans l'intervalle. J'ai même trouvé dans ces ouvrages des détails que j'ai lus depuis dans Pline II, le 7e livre de son Histoire naturelle. Qu'il y a en Afrique certaines familles dont les membres peuvent jeter des sorts en faisant entendre un son de voix de quelques paroles. Leur arrive-t-il, par malheur, de louer de beaux arbres, des moissons fécondes, des enfants bienvenus, des chevaux de race, des troupeaux bien nourris, bien soignés? Bientôt tout cela meurt par le seul effet de ce charme. Ces mêmes auteurs attribuent aux yeux une influence non moins fatale. Et même, on rapporte qu'il y a en Illyrie des personnes qui tuent ceux qu'ils regardent longtemps et fixement quand ils sont irrités. Les hommes et les femmes dont la vue a un pouvoir si redoutable ont deux prunelles à chaque œil. Dans les montagnes de l'Inde, on trouve des hommes à tête de chien et qui aboient. Ils se nourrissent des oiseaux et des animaux sauvages qu'ils prennent. Les terres situées à l'extrémité de l'Orient offrent encore d'autres merveilles. On y voit des hommes, appelés monocoles, qui n'ont qu'une jambe, dont ils se servent en sautant, avec une très grande agilité. Il y a même une espèce d'homme sans tête, et qui ont les yeux placés sur les épaules. Mais ce qui dépasse les bornes du merveilleux, c'est que, d'après les mêmes écrivains, on trouve aux confins de l'Inde des hommes entièrement couverts de plumes, comme les oiseaux, qui ne prennent aucune nourriture substantielle, mais qui se contentent pour vivre d'aspirer par le nez le parfum des fleurs. Non loin de là sont les pygmées, dont les plus grands n'ont pas plus de 4 pieds un quart. Voilà ce que j'ai lu entre 1000 autres récits merveilleux. Et tout de suite, la suite de notre programme avec Avishai Cohen, l'album Aurora, la chanson Morenica. Thank you. Cette émission touche à sa fin. Elle a été préparée par Arthur, Estelle, Justin, Nicolas et sans oublier, bien sûr, Thibaut et Victor. Aujourd'hui, au pupitre, nous avions donc Victor, Thibaut, Justin, Nicolas qui assuraient également la réalisation de l'émission. Sans oublier de remercier Jeanne qui nous a fourni ce conseil, cette romance séfarade qu'on vient d'écouter à l'instant, d'Avishai Cohen. Vous pouvez retrouver notre émission sur notre blog, fabulanarratourblog.wordpress.com, où se trouvent les références des textes lus lors de notre première partie, ainsi, très important, qu'un formulaire de contact. Pourquoi je dis très important? C'est parce que si vous nous envoyez des lettres, nous allons les lire ici, surtout si elles sont bien écrites, et ça nous évitera de travailler, enfin ce sera ça de moins pour nous. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes toujours sur Radio Campus, émettant sur la longueur d'onde 106.6 MHz à Lille et sur internet www.campuslille.com. Dans quelques instants, à 16h, vous retrouverez l'émission Art & Bass. À la semaine prochaine. Cause I attack.